Question. Un livre merveilleux a été écrit à ce sujet par Anne Pourrière. Il s'intitule Stephen Lives. L'auteur y apporte son témoignage sur son fils, qui a mis fin à sa vie à l'adolescence. Tant de gens l'ont trouvé utile. Réponse. Anne Pourrière est un messager merveilleux, tout comme son fils. Question. Tu nous recommandes la lecture de ce livre? Réponse. C'est un livre important. Il en dit davantage à ce sujet que nous ne le faisons ici. Et ceux qui ont gardé des blessures profondes ou des problèmes persistants entourant le fait qu'un être cher a mis fin à ses jours seront ouverts à la guérison par l'intermédiaire de ce livre. Question. Il est triste que nous ayons de telles blessures et de tels problèmes, mais pour une grande part, je crois, c'est le résultat de ce que notre société nous a fourni sur le suicide. Réponse. Dans votre société, il arrive souvent que vous ne voyez pas les contradictions de vos propres constructions morales. La contradiction entre le fait de faire des choses qui, vous le savez très bien, raccourciront votre vie, mais de les faire lentement, et le fait de faire des choses qui raccourciront votre vie rapidement, voilà l'une des plus flagrantes de l'expérience humaine. Question. Mais cela semble si évident lorsque tu l'énonces ainsi. Pourquoi ne pouvons-nous voir nous-mêmes une vérité aussi évidente? Réponse. Parce que si vous voyez ces vérités, vous auriez à faire quelque chose avec. Mais vous vous refusez à le faire. Alors, vous n'avez d'autre choix que de regarder une chose en face sans la voir. Question. Mais si nous voyons ces vérités, pourquoi ne voudrions-nous pas agir à partir d'elles? Réponse. Parce que vous croyez que, pour agir, vous auriez à mettre fin à vos plaisirs. Et mettre fin à vos plaisirs constitue un choix que vous n'avez aucun désir de faire. La plupart des choses, ou leurs résultats, qui causent lentement votre mort, vous donnent du plaisir. Et la plupart des choses qui vous donnent du plaisir satisfont le corps. En réalité, c'est ce qui fait de votre société une société primitive. Vos vies sont largement structurées autour du fait de rechercher et d'expérimenter les plaisirs du corps. Bien entendu, tous les êtres, partout, cherchent à connaître des plaisirs. Il n'y a rien de primitif là-dedans, puisque c'est l'ordre naturel des choses. Ce qui différencie les sociétés et les êtres au sein des sociétés, c'est leur définition de l'agréable. Si une société est largement structurée autour des plaisirs du corps, elle ne fonctionne pas au même niveau qu'une société fondée autour des plaisirs de l'âme. Et comprenez aussi que cela ne veut pas dire que vos puritains avaient raison et qu'il faut nier tous les plaisirs du corps. Cela signifie que dans les sociétés spirituellement élevées, les plaisirs du corps physique ne constituent pas le plus grand nombre des plaisirs appréciés. Ils ne sont pas le premier point de mire. Plus une société ou un être est élevé, plus ses plaisirs le sont aussi. Question. Minute. Ça ressemble à un jugement de valeur. Je croyais que toi, Dieu, tu ne portais pas de jugement de valeur. Réponse. Est-ce un jugement de valeur que d'affirmer que le mont Everest est plus élevé que le mont McKinley? Est-ce un jugement de valeur que de dire que tante Sarah est plus âgée que son neveu Thomas? Ce sont là des jugements de valeur ou des observations? Je n'ai pas dit qu'il valait mieux avoir une conscience élevée. En fait, ce n'est pas le cas. Pas plus qu'il vaut mieux être en quatrième année qu'en première. Je ne fais qu'observer ce qu'est la quatrième année. Question. Et nous ne sommes pas en quatrième année sur cette planète. Nous sommes en première, n'est-ce pas? Réponse. Mon enfant, vous n'êtes même pas à la garderie. Vous êtes à la pouponnière. Question. Comment ne puis-je pas recevoir ça comme une insulte? Pourquoi ai-je l'impression que tu dénigres la race humaine? Réponse. Parce que ton ego croit profondément que tu es ce que tu n'es pas et que tu n'es pas ce que tu es. La plupart des gens entendent des insultes lorsqu'une simple observation a été faite, si cette observation a trait à une chose qu'ils ne veulent pas assumer. Mais si vous n'acceptez pas une chose, vous ne pourrez l'abandonner. Vous ne pourrez vous départir de ce que vous n'avez jamais possédé. Question. On ne peut pas changer ce qu'on n'accepte pas? Réponse. Exactement. L'illumination commence par l'acceptation, sans jugement, de ce qui est. Cela s'appelle entrer dans l'état d'être. C'est dans l'état d'être que l'on trouvera la liberté. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes disparaît. En d'autres termes, il cesse d'avoir une forme illusoire. Tu le vois tel qu'il est. Et ce qui est peut toujours être transformé. Seul ce qui n'est pas ne peut être changé. Par conséquent, pour changer l'état d'être, entre dedans. N'y résiste pas. Ne le nie pas. Si tu nies une chose, tu la déclares. Si tu déclares une chose, tu la crées. Le déni d'une chose est sa recréation, car l'acte même de nier une chose la fait apparaître. L'acceptation d'une chose t'en donne la maîtrise. Ce que tu nies, tu ne peux le contrôler puisque tu as déclaré son absence. Par conséquent, ce que tu nies te domine. La majeure partie de ta race refuse de reconnaître qu'elle n'est pas encore suffisamment évoluée pour entrer à la maternelle. Elle ne veut pas accepter que la race humaine est encore à la pouponnière. Mais ce manque d'acceptation, c'est exactement ce qui la garde là. Vous avez un tel investissement de l'ego dans le fait d'être ce que vous n'êtes pas, hautement évolué, que vous n'êtes pas ce que vous êtes en évolution. Vous travaillez donc contre vos intérêts et luttez contre vous-même. Par conséquent, vous évoluez très lentement. La voie rapide vers l'évolution commence lorsqu'on admet et qu'on accepte ce qui est et non ce qui n'est pas. Question. Et je saurai que j'ai accepté ce qui est lorsque je ne me sentirai plus insulté en entendant sa description. Réponse. Exactement. Te sentiras-tu insulté si je te dis que tu as les yeux bleus ? Alors, je te redis ceci. Plus une société ou un être est élevé, plus ses plaisirs sont élevés. Ce que vous appelez plaisir, c'est ce qui proclame votre niveau d'évolution. Question. Aide-moi à mieux saisir la portée du terme élevé. Qu'entends-tu par là ? Réponse. Ton être est le microcosme de l'univers. Toi, ainsi que ton corps physique, êtes composé d'énergie brute agglutinée autour de 7 centres ou chakras. Étudie les chakras et leurs significations. Il y a des centaines de livres là-dessus. C'est de la sagesse que j'ai donnée à la race humaine. Ce qui est agréable ou stimule vos chakras inférieurs diffère de ce qui est agréable pour vos chakras supérieurs. Plus vous élevez l'énergie de votre vie à travers votre être physique, plus votre conscience sera élevée. Question. Eh bien, nous y voilà encore. Cela ressemble à un argument en faveur de la chasteté. Cela ressemble à l'argument à l'encontre de l'expression de la passion sexuelle. Les gens qui sont élevés dans leur conscience ne se situent pas au niveau de leur chakra racine, leur premier chakra, le plus bas, de leur interaction avec d'autres humains. Réponse, c'est vrai. Question. Mais tu n'as pas répété tout au long de ce dialogue que la sexualité humaine devait être célébrée et non réprimée ? Réponse, c'est juste. Question. Eh bien, aide-moi à m'en tirer, car il me semble y avoir une contradiction. Réponse. Le monde est rempli de contradictions, mon fils. Le manque de contradictions n'est pas un ingrédient nécessaire à la vérité. Parfois, une vérité supérieure se trouve au sein même de la contradiction. Ce que nous avons ici, c'est la divine dichotomie. Question. Alors, aide-moi à comprendre cette dichotomie. Toute ma vie, j'ai entendu dire à quel point c'était désirable, à quel point c'était élevé, d'élever l'énergie de la Kundalini à partir du chakra racine. Cela a été la principale justification des mystiques menant une vie d'extase sans sexe. Je me rends compte que nous nous sommes éloignés du sujet de la mort et je m'excuse de nous entraîner sur ce territoire. Réponse. Pourquoi t'excuser ? Une conversation va là où elle va. Le sujet, entre guillemets, dont nous nous entretenons tout au long de ce dialogue, c'est ce que veut dire être pleinement humain et ce que signifie la vie dans cet univers. C'est le seul sujet, et il s'insère dans notre échange. Vouloir apprendre des choses sur la mort, c'est vouloir en apprendre sur la vie. C'est là un argument que j'ai fait valoir auparavant. Et si nos échanges mènent à une expansion de notre recherche, de façon qu'elle inclue l'acte même qui crée la vie et qui la célèbre magnifiquement, qu'il en soit ainsi. À présent, soyons clairs, encore une fois, à propos d'une chose. Il n'est pas exigé de ceux qui sont hautement évolués, entre guillemets, que toute expression de l'énergie sexuelle soit atténuée et que toute l'énergie sexuelle soit élevée. Si tel était le cas, alors il n'y aurait nulle part d'être, entre guillemets, hautement évolué, car toute évolution aurait cessé. Question. Voilà un argument plutôt évident. Réponse. Oui. Ainsi, quiconque prétend que les plus grands saints n'ont jamais d'activité sexuelle et que c'est un signe de leur sainteté ne comprend pas comment la vie est destinée à être. Permets-moi d'énoncer cela en termes explicites. Si tu désires un étalon de mesure qui servirait à juger si une chose est bonne ou non pour la race humaine, pose-toi une question simple. Qu'arriverait-il si tout le monde le faisait ? C'est une mesure très simple et très précise. Si chacun faisait une chose et que le résultat était, en définitive à l'avantage de la race humaine, alors ce serait évoluer, entre guillemets. Si chacun la faisait et que cela plongerait la race humaine dans un désastre, alors ce ne serait pas une chose très élevée, entre guillemets, à recommander. Es-tu d'accord ? Question, bien sûr. Réponse. Alors, tu viens de reconnaître le fait qu'aucun maître véritable ne dira jamais que la chasteté est la voie de la maîtrise. Mais c'est cette idée selon laquelle l'abstinence sexuelle est, d'une façon ou d'une autre, la voie supérieure. Et l'expression sexuelle, un désir inférieur, qui a déshonoré l'expérience sexuelle et amené bien des formes de culpabilité et de dysfonction à se développer. Question. Mais si le raisonnement à l'encontre de l'abstinence sexuelle tient au fait qu'elle interdirait la procréation, ne pourrait-on pas avancer qu'une fois que le sexe a rempli cette fonction, il n'est plus nécessaire ? Réponse. On ne s'adonne pas au sexe parce qu'on est responsable de la procréation de la race humaine. On s'adonne au sexe parce que c'est un acte naturel. Il est inscrit dans les gènes. Vous obéissez à un impératif biologique. Question. Exactement. C'est un signal génétique rattaché à la question de la survie de l'espèce. Mais une fois cette survie de l'espèce assurée, n'est-ce pas la chose élevée, entre guillemets, à faire que d'ignorer le signal ? Réponse. Tu interprètes mal ce signal. L'impératif biologique ne vise pas à garantir la survie de l'espèce, mais à faire l'expérience de l'unité qui est la véritable nature de ton être. Créer une nouvelle vie, c'est ce qui se produit lorsque l'unité est atteinte, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on recherche l'unité. Si la procréation était l'unique raison de l'expression sexuelle, si ce n'était rien d'autre qu'un système de livraison, vous n'auriez plus besoin de vous y adonner l'un avec l'autre. Vous pourriez unir les éléments chimiques de la vie dans un contenant pétri. Mais cela ne satisferait pas les besoins les plus fondamentaux de l'âme, qui, d'ailleurs, sont beaucoup plus grands que la simple procréation et qui sont reliés à la recréation de qui et de ce que vous êtes vraiment. L'impératif biologique n'est pas de créer plus de vie, mais de faire l'expérience de plus de vie et de faire l'expérience de cette vie telle qu'elle est vraiment, soit une manifestation de l'unité. Question. Voilà pourquoi tu n'empêcheras jamais les gens de s'adonner au sexe, même s'ils ont cessé depuis longtemps d'avoir des enfants. Réponse. Bien sûr. Question. D'après certains, néanmoins, le sexe doit cesser lorsque les gens cessent d'avoir des enfants. Et les couples qui poursuivent cette activité cèdent tout simplement à des besoins physiques abjects. Réponse. Oui. Question. Et ce n'est pas un comportement élevé, mais purement animal, inférieur à la noble nature de l'homme ? Réponse. Ce qui nous ramène au chakra, au centre d'énergie. J'ai dit plus tôt que plus vous élevez votre énergie vitale à travers votre être physique, plus votre conscience sera élevée. Question. Oui, et ça semble vouloir dire pas de sexe. Réponse. Non, pas du tout. Pas quand tu comprends. Permets-moi de revenir à ton commentaire précédent et de clarifier quelque chose. Il n'y a rien d'ignoble ou de profane au fait de s'adonner au sexe. Il faut que tu enlèves cette idée de ton esprit et de ta culture. Il n'y a rien d'abject, de grossier ou d'indigne, et encore moins de profane, dans une expérience sexuelle passionnée et empreinte de désir. Les besoins physiques ne sont pas des manifestations de comportement animal. Ces besoins ont été intégrés dans votre organisme par moi. Qui, d'après toi, a créé les choses ainsi ? Les besoins physiques ne sont qu'un seul ingrédient d'un mélange complexe de réponses que vous avez tous, les uns envers les autres. Rappelle-toi, tu es un être en trois parties, avec sept chakras. Lorsque vous réagissez l'un à l'autre, en même temps, à partir de ces trois parties et de ces sept chakras, vous vivez l'expérience sommet que vous recherchez et pour laquelle vous avez été créé. Et aucune de ces énergies n'a rien de profane. Mais si vous n'en choisissez qu'une, votre expérience reste partielle, incomplète. Lorsque tu n'es pas complet, tu te limites. Voilà ce que veut dire « profane », entre guillemets. Question. Sans sas, je l'ai. Réponse. L'admonestation contre le sexe pour ceux qui choisissent d'être élevés n'était pas pour moi une admonestation. C'était une invitation. Une invitation n'est pas une remontrance, mais c'est ce que vous en avez fait. Et ce n'était pas une invitation à cesser de vous adonner au sexe, mais bien plutôt à cesser d'être incomplet. Tout ce que tu fais, t'adonner au sexe ou prendre ton petit déjeuner, aller au travail ou marcher sur la plage, sauter à la corde ou feuilleter un bon livre, tout ce que tu fais, fais-le avec tout ton être, avec tout l'être que tu es. Si tu ne t'adonnes au sexe qu'à partir de ton chakra inférieur, tu ne fonctionnes qu'à partir du chakra racine et tu manques de loin la part la plus splendide de l'expérience. Mais si tu es affectueux envers ton partenaire et que ce moment a son origine à partir des 7 centres d'énergie, tu vis une expérience sommet. Comment cela peut-il ne pas être sacré ? Question. Bah, c'est impossible. Je suis incapable d'imaginer qu'une telle expérience puisse ne pas être sacrée. Réponse. Ainsi, quand je t'invitais à élever l'énergie vitale dans ton être physique jusqu'au chakra de la couronne, ce n'était absolument pas suggéré ou exigé que tu te déconnectes du bas. Si tu as élevé l'énergie jusqu'à ton chakra du cœur, ou même jusqu'à ton chakra couronne, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se trouver également dans ton chakra racine. En effet, si elle n'y est pas, tu es déconnecté. Lorsque tu as élevé l'énergie vitale jusqu'à tes centres supérieurs, tu peux ou non choisir d'avoir ce que tu appellerais une expérience sexuelle avec une autre personne. Autrement, tu ne violerais aucune loi cosmique sur la sainteté. Et cela ne t'élèverait pas davantage non plus. Et si tu choisis de t'adonner au sexe avec une autre personne, cela ne va pas t'abaisser au seul niveau du chakra racine, à moins que tu fasses le contraire, de te déconnecter du bas et que tu ne te déconnectes du haut. Alors, voici une invitation, non pas une admonestation, mais une invitation. À chaque instant, élève ton énergie, ta force vitale, jusqu'au niveau le plus élevé possible et tu seras élevé. Cela n'a rien à voir avec le fait de t'adonner ou non au sexe. Cela a à voir avec le fait d'élever ta conscience, peu importe ce que tu fais. Question, je l'ai, je comprends. Mais je ne sais pas comment élever ma conscience. Je ne crois pas savoir comment élever l'énergie vitale tout au long de mes chakras. Et je ne suis pas sûr que les gens sachent même ce que sont ces centres. Réponse. Quiconque veut sincèrement en savoir davantage sur la physiologie de la spiritualité peut trouver assez facilement. J'ai déjà émis cette information en termes très clairs. Question. Tu veux dire dans d'autres livres, par l'intermédiaire d'autres auteurs ? Réponse. Oui. Lis Deepak Chopra. C'est l'un de ceux qui, à présent, énonce le mieux les idées ou principes sur votre planète. Il comprend le mystère de la spiritualité et sa science. Il y a d'autres merveilleux messagers. Leurs livres décrivent non seulement comment élever ta force vitale à travers ton corps, mais aussi comment quitter ton corps physique. Tu peux te rappeler, grâce à ces lectures, à quel point il est joyeux de lâcher prise sur le corps. Et tu comprendras qu'il est possible de ne plus jamais craindre la mort. Tu comprendras la dichotomie selon laquelle c'est une joie que d'être dans le corps et une joie d'en être libéré.